Bonjour à toutes et à tous, Isabelle Dupuis pour ce journal de la radio des Nations Unies avec en titre « Ban Ki-moon appelle au bon déroulement des élections au Burundi ». Le HCR mobilisé par les déplacements au Nigeria, préoccupation du Bureau des droits de l'homme face à la situation au Yémen, le point sur les négociations sur l'agenda post-2015, Conakry nommée capitale mondiale du livre, nous reviendrons sur la reconstruction des mausolées de Tombouctou avant de retrouver Voix de Femmes. Alors que les Burundais devaient voter ce mardi pour élire leur président, le secrétaire général Ban Ki-moon a appelé une nouvelle fois à la reprise du dialogue entre toutes les parties prenantes. Cette requête intervient suite à la suspension sine die des discussions inter-burundaises sous facilitation ougandaise. Des experts des droits de l'homme de l'ONU avaient dénoncé la semaine dernière le climat de répression et de peur qui a entaché la campagne pour le scrutin présidentiel. Ils avaient également prévenu que le pays pourrait sombrer dans un conflit violent. Jérôme Bernard.
Dans une déclaration à la presse, quelques heures avant l'ouverture des bureaux de vote au Burundi, le secrétaire général a appelé les autorités à assurer la sécurité et la tenue pacifique de ce scrutin. Il a aussi exhorté toutes les parties à s'abstenir de commettre toute forme de violence qui pourrait compromettre la stabilité du Burundi et de la sous-région. Le chef de l'ONU a rappelé que conformément au mandat du Conseil de sécurité pour une observation du processus électoral avant, pendant et après les élections, la mission d'observation électorale des Nations Unies au Burundi, MENUB, continue de remplir ses fonctions et qu'elle a déployé à cette fin des observateurs sur tout le territoire burundais. Enfin, le secrétaire général a invité toutes les parties à faciliter l'accomplissement de leur mission et a demandé en particulier au gouvernement d'assurer la sécurité des observateurs. Depuis la décision du président Pierre Nkurunziza d'être candidat à un troisième mandat, le Burundi connaît une grave crise politique, poussant des dizaines de milliers de Burundais vers les pays voisins pour échapper aux violences.
Et puis au Nigeria, plusieurs semaines après les élections présidentielles, les violences et les attaques continuent de provoquer des déplacements de population. Selon le Haut Commissariat pour les réfugiés, près de 100 réfugiés nigérians arrivent chaque jour dans le camp de Minawaou, à l'extrême nord du Cameroun. La majorité d'entre eux étaient demeurés à proximité de la frontière entre le Nigeria et le Cameroun, dans l'espoir de pouvoir rapidement rentrer chez eux. Mais cette zone particulièrement volatile a été le théâtre de plusieurs attaques et affrontements depuis le début du mois. Léo Dobbs est porte-parole du HCR.
Nous estimons qu'au moins 12 000 réfugiés nigériens non inscrits se trouvent dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Suite aux récentes attaques, le gouvernement du Cameroun a commencé à inscrire les réfugiés nigériens qui se trouvent dans la zone frontalière. Mais certains réfugiés craignent que cette inscription ne soit un précurseur à leur renvoi au Nigeria contre leur gré. Pour contrer cette crainte, le HCR et le gouvernement sont en train de consulter les réfugiés qui se trouvent dans les zones frontalières pour déterminer où ils veulent se rendre. Certains pourraient choisir de retourner dans des zones sûres au Nigeria et d'autres pourraient décider d'aller au camp de Minawaou. Donc on pourrait prochainement voir une augmentation des nouveaux arrivés.
Yémen. Alors qu'un navire du PAM transportant 3000 tonnes d'aide alimentaire vient enfin d'accoster dans le port d'Aden, le bureau du Haut Commissaire aux droits de l'homme à Genève a déclaré ce mardi que la situation dans le pays est extrêmement préoccupante. Depuis le début du conflit le 26 mars dernier, près de 1700 civils ont été tués et plus de 3800 autres blessés, la plupart suite à des frappes aériennes. Le bureau des droits de l'homme rappelle à l'ensemble des belligérants leur obligation d'éviter d'attaquer les civils et les infrastructures civiles. Cécile Pouilly, porte-parole du Bureau des droits de l'homme à Genève.
En tout temps, ces parties belligérantes doivent respecter les principes de distinction, de proportionnalité et de précaution. Il peut arriver qu'il y ait parfois des victimes civiles à proximité de cibles militaires, mais les personnes engagées dans ces actions militaires doivent toujours vérifier que les dégâts causés sur les objets ou les vies civiles restent proportionnés par rapport à l'intérêt militaire. On peut s'interroger, bien entendu, sur ces incidents qui ont frappé des places de marché où les gens achetaient de la nourriture. Il y a eu aussi une attaque très meurtrière le 12 juillet qui a fait 29 morts parmi des civils lorsqu'une frappe aérienne a touché un complexe résidentiel à Sanaa. Raison pour laquelle nous avons rappelé leurs obligations à l'ensemble des belligérants en présence.
Suite ce mardi au siège des négociations intergouvernementales sur l'agenda post-2015. En fait, les objectifs de développement durable censés prendre le relais jusqu'en 2030 des objectifs du millénaire pour le développement adoptés en 2000. Nombre de pays ont proposé des amendements au préambule et à la déclaration qui doivent être adoptés en septembre au cours d'un sommet à New York. À l'instar de la représentante permanente de la Belgique, Bénédicte Franquinet, qui a estimé qu'il reste beaucoup à faire pour rendre la déclaration et le préambule plus lisibles et pertinent.
Notre but devrait être que tout le monde lise la déclaration et qu'à travers celle-ci, la pièce maîtresse de notre agenda post-2015, c'est-à-dire les 17 objectifs du développement durable et les 169 cibles, soit contextualisée et rendue lisible pour tous. La version actuelle de la déclaration ne répond, à notre avis, pas encore tout à fait à ces ambitions. Dans l'état actuel du texte, il faut déjà être très motivé et très engagé pour lire ces 6 pages. L'appel à l'action, une des parties les plus importantes, se trouve à la fin et risque donc de ne pas être lu. Pourtant, c'est justement à cela que doit aider la déclaration, à susciter un engagement de toutes les parties prenantes pour nous aider à mettre en œuvre les ODD.
Retour en Afrique, l'UNESCO a annoncé aujourd'hui que la ville de Conakry, en Guinée, a été nommée capitale mondiale du livre pour l'année 2017. La capitale guinéenne a notamment été distinguée pour ses objectifs de développement qui mettent l'accent sur les jeunes et l'alphabétisation. Les explications de Ian Dennison, chef de l'unité des publications de l'UNESCO.
Le dossier était très focalisé sur la jeunesse. Parce que, comme vous le savez, 43% de la population en Guinée a moins que 15 ans. Donc, principalement, ils ont focalisé le programme sur comment impliquer la jeunesse dans un programme de lecture. Donc, on a trouvé ça très bien. C'est un programme très innovatif. Ils ont concentré sur les questions de développement pour le pays. Et surtout, le budget qu'ils avaient proposé était à la fois réaliste et convenant pour ce type de projet.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
En 2012, des mausolées avaient été saccagées dans la ville de Tombouctou, au nord du Mali, par des groupes armés. 3 ans plus tard, la majorité des mausolées détruits ont été reconstruits et la directrice générale de l'UNESCO s'est rendue sur place pour leur inauguration samedi dernier. Ce projet, dont le coût s'élève à près de 500 000 dollars, fait partie d'un plus vaste programme de partenariat entre l'UNESCO et les autorités maliennes sur une période de 4 ans. Pour en savoir plus, Tsige Chifera a contacté Lazare Elundu, représentant de l'UNESCO au Mali.
Cette opération, qui n'est qu'une partie très infime d'un vaste programme qui va durer 4 ans, a coûté un peu plus d'un demi-million de dollars uniquement pour la reconstruction des mausolées. Et le rôle de l'UNESCO a été très déterminant parce que d'abord, c'est l'UNESCO qui a mobilisé la communauté internationale pour qu'elle apporte son concours financier. Mais c'est également l'UNESCO qui a coordonné l'essentiel du travail qui a appuyé la stratégie, qui a mobilisé les experts et qui a suivi ensemble avec le ministère de la Culture du Mali, mais aussi avec l'appui sécuritaire, l'appui logistique de la MINUSMA, que je tiens à remercier, qui est quand même quelque chose de très important, parce que sans la MINUSMA, tout ce travail n'aurait pas été possible. Nous avons travaillé en équipe, hein. Et c'était une belle démonstration de comment les Nations Unies peuvent être solidaires et travailler ensemble sur le terrain, toutes les agences des Nations Unies, avec la mission de maintien de la paix.
Vous avez mentionné donc que ceci n'est qu'une infime partie d'un plus vaste programme. Quel est donc le but final de ce programme au Mali ?
En février 2013, une grande réunion avait été organisée à Paris pour le Mali et qu'à l'issue de cette réunion, un plan d'action de 11 millions de dollars avait été élaboré qui durerait sur 4 ans. Ce travail, en plus de la reconstruction de mausolées, verra la reconstruction du monument de l'indépendance Alpha Rock qui a également été rasé par les groupes qui occupaient la ville, mais aussi la réhabilitation des mosquées qui sont quand même dans un état de dégradation un tout petit peu inquiétant. Certaines mosquées ont commencé à être réhabilitées. Ce travail aussi, ce plan d'action prévoit aussi une grosse partie sur la sauvegarde des manuscrits, la réhabilitation des bibliothèques, dans la bibliothèque Ahmed Baba, mais aussi tout le travail de numérisation, de conservation même des manuscrits. Alors ça, c'est pour la partie de Tombouctou. Le même travail concernera aussi Gao, où le tombeau des Askia aura également besoin d'être réhabilité complètement. Des études diagnostiques sont en cours aujourd'hui. Et c'est ce travail-là, mais qui concernera aussi le renforcement des capacités pour la durabilité de cette action, aussi le travail sur le patrimoine immatériel, sur la protection des musées, la lutte contre le trafic illicite. C'est vraiment tout ce grand ensemble qui durera 4 ans. Et nous avons besoin de 11 millions de dollars. Nous n'avons que 3 millions de dollars et nous en faut encore 8 millions pour vraiment terminer ce travail-là. Et ce qui s'est passé et le résultat de la construction de ces mausolées est la preuve que nous pouvons continuer à faire ce travail, ce qui permettra aussi de soutenir les efforts de reconstruction qui sont en cours avec la signature des accords depuis le 20 juin dernier.
Voix de femme.
Cette semaine dans Voix de femme, nous partons à la rencontre de Nadège Beauville. À l'approche des élections présidentielles prévues le 25 octobre, la spécialiste de programme d'ONU Femmes en Haïti explique l'action menée par son agence pour appuyer la pleine participation politique des femmes à tous les stades du processus électoral, que ce soit des femmes mandataires, agentes de paix, électrices, candidates ou encore membres du conseil électoral provisoire et de vote. Cette haïtienne engagée est au micro de notre envoyée spéciale Stéphanie Coutrix.
À ONU Femmes, nous avons ce qu'on appelle une des thématiques clés, qui est la thématique en rapport avec le leadership et la participation politique des femmes. Normalement, nous devons nous assurer qu'il y ait inclusion, c'est-à-dire que vraiment la prise en compte du genre dans tout le processus. Et ceci implique la pleine participation des femmes à tous les niveaux dans le processus. Qu'il s'agisse de femmes mandataires, agentes de paix, électrice, candidate bien sûr, et même membre du conseil électoral provisoire, de vote, etc.
En Haïti, jusqu'à présent, il y a plus d'une cinquantaine de candidats. Combien de candidates ?
Au présidentiel, nous avons sur 58, 4 ou 5 femmes.
Concrètement, quelles sont vos actions pour essayer d'augmenter le nombre de femmes en politique ?
Nous allons d'abord regarder l'aspect les élections là maintenant, parce qu'il faudrait regarder 3 phases, 3 temps. Il y a ce qu'on appelle l'avant-élection, il y a les élections elles-mêmes et la période post-électorale. Et donc là, nous sommes vraiment dans la période des élections. C'est difficile de parler là d'avant, parce qu'on est vraiment là-dedans, en pleine action. Et l'appui revient vraiment à encourager, à mobiliser la population pour aller voter. Mais aller voter comment? En sachant que l'importance que joue la femme, les femmes, dans toute cette machine, dans les postes décisionnels, dans la politique, dans le leadership d'un pays, etc. Donc c'est là que nous jouerons vraiment un rôle où nous nous assurons qu'il y ait des campagnes de sensibilisation, de mobilisation pour que vraiment il y ait une participation active de la population et des femmes dans tout ce processus.
Vous vous attendez à ce qu'un grand nombre de femmes aillent voter?
Oui, parce que les femmes quand même représentent la moitié de la population. Et donc c'est important qu'elles comprennent l'importance de se déplacer, d'aller remplir ce geste citoyen. Nous le voulons et nous travaillons pour ça en collaboration avec les autres agences, d'autres partenaires et les organisations de femmes.
Vous allez sur le terrain pour discuter avec elles par rapport à leurs obligations de citoyennes?
Oui, nous travaillons avec justement des partenaires pour cela. C'est important, nous formons des jeunes femmes qui sont là justement pour aller faire ce travail dans les marchés, dans les clubs de jeunes et partout dans les églises, d'aller vraiment encourager la population à comprendre l'importance de la participation des femmes et l'importance du vote.
Récemment, vous avez organisé une formation pour les femmes journalistes et peut-être même les journalistes en général, hommes et femmes, par rapport à la façon dont ils vont couvrir ces élections. Quelles étaient les recommandations pour traiter le sujet du genre de façon équitable?
Bon, une des premières choses, c'est que notre constitution même exige cette égalité. Ensuite, il y a également toutes les conventions que le pays a signées. Il y a la CDF, il y a les droits humains, il y a bien d'autres conventions. Et nous avons aussi la politique d'égalité homme-femme qui vient d'être publiée par le gouvernement. Donc tout ceci nous montre comment déjà il y a un progrès qui a été fait pour montrer l'importance de l'égalité homme-femme et pourquoi vraiment il faut qu'il y ait inclusion. Donc, on a vraiment profité de ce moment avec la formation pour les journalistes pour leur montrer pourquoi il faut cette inclusion. Ça permet d'avoir un pays plus équilibré, ça assure le développement socio-économique du pays. Il y a des exemples qui sont à travers le monde, pourquoi pas Haïti.
Et c'est ainsi que se referme ce journal de la radio des Nations Unies, une édition à retrouver sur l'Internet. Merci de votre fidélité, on se retrouve demain, même heure, même fréquence.